VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. La dépouille de Papa Wamba, le roi de la rumba congolaise, est arrivée ce matin à Kinshasa, en provenance d'Abidjan. Le cercueil blanc de l'illustre disparu recouvert du drapeau national a été accueilli à l'aéroport par des officiels congolais, une foule immense. Parmi les personnalités présentes, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et le président de l'Assemblée nationale Obe Minaku. Le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Kwaku Bandama, avait personnellement accompagné la dépouille pendant le voyage. Le cercueil, ensuite embarqué dans un corbillard, a été conduit à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa, dans un cortège encadré par la police. Le gouvernement congolais avait mis en garde hier contre toute récupération politique de l'événement. Pour les détails de l'hommage qui sera rendu à Papa Wemba lundi et ses obsèques officielles mardi, écoutons Baudouin Banza Moukalaï, ministre congolais de la Culture.
On va lever le corps officiellement lundi à 11h. On ira au stade des Martyrs. Toute la journée de lundi sera consacrée aux artistes, aux cinéastes, aux peintres, à beaucoup d'associations auxquelles Papa Wemba a appartenu. Les gens ont l'occasion de rendre hommage à leur illustre disparu. Mais mardi, les officiels viennent pour rendre le dernier hommage et vers 13h, on ira l'enterrer.
Le ministre congolais de la Culture, Baudouin Banza Moukalaï, propos recueillis par Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Tchad, Amnesty International s'est alarmé aujourd'hui de la disparition confirmée d'une vingtaine de militaires et policiers à la suite de l'élection présidentielle du 10 avril, remportée par le président Idriss Déby Itno. Des éléments des forces de l'ordre qui n'auraient pas voté, semble-t-il, en faveur du chef de l'État. L'Organisation de défense des droits humains réclame l'ouverture d'une enquête indépendante sur ces disparitions. Par ailleurs, l'opposant tchadien Lao Kane Kourayo Médar, maire de Moundou, la capitale économique du pays, et candidat malheureux à la dernière présidentielle, dénonce une chasse aux sorcières orchestrée par les autorités tchadiennes contre son entourage. On écoute le témoignage de Lao Kane Kourayo Médar.
Après la publication des résultats provisoires par la CENI, l'Agence nationale de sécurité, autrement dit la police politique, s'est mise à la chasse aux sorcières, enlevant, arrêtant, brutalisant nos militants. Beaucoup ont eu la vie sauve en se sauvant du côté du Cameroun. D'autres, tels que les Diondadi, les Idriss Ramadan, les Mahamad Mbodou, ont été arrêtés par cette police politique pour être torturés pendant des heures avant d'être libérés. Deux de nos militants ont été enlevés le dimanche à 100 km de Moundou, la ville économique du Tchad, et ceux-là sont portés disparus. Donc, nos militants sont en danger. La ville de Moundou également est en danger.
Lao Kane Kourayo Médar, maire de Moundou au Tchad. Crise au Burundi, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Raad Hussein, a vivement condamné le nombre croissant d'attaques contre des hauts responsables dans le pays. Les détails avec Nani Talani.
Le responsable onusien cite notamment l'assassinat du brigadier général Athanase Kararouza et de sa femme lundi dernier, ainsi que la tentative d'assassinat contre le ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre, Martin Niviabondi, le 24 avril. Zeid Raad Al-Hussein estime que ces violences doivent faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme et que leurs auteurs doivent être arrêtés et traduits en justice. Selon l'ONU, 31 personnes ont été tuées au cours d'attaques en avril. La grande majorité de ces attaques a été menée par des hommes armés non identifiés. Le haut commissaire aux droits de l'homme dit craindre que le nombre croissant d'assassinats ciblés n'aboutisse à une aggravation de la spirale de violence. Il a appelé toutes les parties à prendre part au dialogue prévu lundi à Arusha en Tanzanie afin de trouver une solution durable à la crise burundaise.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma écarte toute idée de démission alors que des manifestants dans les principales villes du pays réclamaient avec insistance hier son départ du pouvoir. Le point avec Chérubin Dorsil.
À Johannesburg, au Cap et à Durban, des centaines de personnes se sont rassemblées à l'appel de l'organisation de la société civile pour réclamer sa démission. Le changement doit arriver dans le respect de nos institutions démocratiques, a lancé Jacob Zuma devant des milliers de supporters à Guyeni, dans le nord du pays. Nous avons travaillé dur pour construire ce pays. Il ne peut pas être détruit par des anarchistes, a-t-il ajouté, en référence aux menaces de recours à la violence lancées par Julius Malema, le bouillant transfuge de l'ANC. À 3 ans de la fin de son second mandat, Jacob Zuma est au cœur de plusieurs scandales. Fin mars, la justice a jugé qu'il a violé la Constitution en refusant de rembourser une partie des 20 millions d'euros utilisés pour rénover sa résidence privée. Les élections municipales prévues le 3 août seront un test pour l'ANC et le président sud-africain.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, Niger. Le gouvernement nigérien a prorogé de 3 mois à compter du 28 avril 2016 l'état d'urgence de la région de Diffa dans l'extrême sud-est du pays, proche du Nigeria, en raison du niveau élevé de la menace posée par le groupe islamiste nigérian Boko Haram. C'est ce qu'annonce un communiqué du Conseil des ministres lu aujourd'hui à la télévision nationale. La menace s'est aggravée après le départ des troupes tchadiennes et nigériennes des localités nigérianes de Malam Fatori et Damasak, proches du Niger, d'où elles avaient chassé les combattants de Boko Haram en mars 2015. Après le retrait de ses militaires, Boko Haram a récupéré ses 2 anciens fiefs. Et puis au Mali, le délestage d'électricité est devenu monnaie courante dans les grandes villes, tout comme les petites localités. La société chargée de la gestion du courant électrique attribue ce phénomène à 2 problèmes majeurs. Le premier est l'état des équipements de la société, qui ne supporte plus la chaleur. Et puis le second s'appelle tout simplement déficit d'électricité. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous en dit plus dans ce reportage.
En cette période de grande chaleur, les populations ne savent quoi faire, comme cet habitant de Daoudabou.
Moi, je suis Salif Bengali. Le délestage est devenu un problème crucial à Bamako. On appelle ça un délestage sauvage.
Sans électricité, rien ne marche à Bamako. Pas d'eau fraîche, pas de poissons frais, et il y a trop de difficultés chez les tailleurs, les frigoristes, les menuisiers et autres réparateurs. Dans les salles de classe, la situation devient très tendue.
Karim Demia, je suis le directeur du lycée technique Gerson Dambélé. Nous sommes actuellement très éprouvés vraiment par ces délestages. Imaginez-vous, nous sommes avec les enfants, des fois on n'a pas d'eau et tous les travaux c'est sur la base de l'électricité, c'est vraiment désagréable. Nous sommes très inquiets par rapport à la situation parce que nous sommes en danger.
Tchona Mathieu Kone, directeur de la communication de la société Énergie du Mali.
Il y a une fréquence de coupure d'électricité actuellement. Cela est dû à 2 facteurs. Le facteur de la grande chaleur qui éprouve les machines, parce qu'il faut rappeler que nous sommes encore à 60% de production d'électricité par le thermique, c'est-à-dire par des groupes électrogènes qui ont un moment de maintenance, un moment de révision, toute chose qui fait que vous êtes obligé de les arrêter pour au moins changer des filtres, l'huile, etc., etc.
Le second problème à EDM, ça s'appelle déficit, car il y a plus de demandes d'électricité que de courant disponible.
Déficit dans la mesure où l'offre est inférieure à la forte demande, au moment où même où tout le monde a besoin d'électricité. Mais vous êtes obligé de procéder par des coupures plus ou moins longues. On s'en excuse.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'actualité hors d'Afrique maintenant, conflit en Syrie. L'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie veut revitaliser avec l'aide de Washington et Moscou le cessez-le-feu en grave danger dans ce pays suite à l'intensification des bombardements sanglants dans la région d'Alep, dans le nord. Stéphane de Mistura a indiqué avoir recommandé au Conseil de sécurité d'organiser dans un futur proche une rencontre du GISS, le groupe international de soutien à la Syrie, composé de 17 pays et coprésidé par la Russie et les États-Unis. Le 3e round de négociations de paix qui avait commencé le 13 avril s'est achevé hier à Genève, sans aucun progrès, puisque les principaux représentants de l'opposition ont quitté la table des pourparlers pour protester contre la dégradation de la situation humanitaire et les violations de la trêve en Syrie. Course à la Maison-Blanche maintenant. Dans le camp républicain, le candidat à l'investiture présidentielle Ted Cruz a joué mercredi son va-tout en nommant Carly Fiorina comme colistière afin de reprendre l'initiative contre le favori Donald Trump qui a remporté une série de victoires aux primaires de mardi dans l'est du pays. De son côté, Donald Trump a prononcé à Washington un discours de politique étrangère dans lequel il a repris le sanglant des isolationnistes américains opposés à l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. L'Amérique d'abord.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.